Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Oui, c'est vrai qu'au début des années 1900, les agents de change à la Bourse de New York la surnomment peu charitablement la sorcière de Wall Street. Hetty Green, alors âgée d'une soixantaine d'années, a l'habitude de faire le tour des banques, vêtue d'une sinistre robe noire usée jusqu'à la corde et d'un vieux chapeau tout aussi sombre. À cette époque, sa pingrerie est de notoriété publique. On raconte qu'Hetty Green ne prend qu'un seul repas par jour, un bol de porridge qu'elle réchauffe sur un radiateur pour éviter d'aller au restaurant.
Quelle horreur.
Qu'elle ne se lave pas pour économiser, ou bien qu'il lui arrive de se vêtir de haillons pour être soignée gratuitement dans des institutions charitables. Bien sûr, tout ceci, Mathieu,
oui,
n'est que pure légende. Mais vous allez voir que la vie d'Hetty Green vaut le détour. Hetty Robinson, il s'agit de son nom de jeune fille, naît le 21 novembre 1834 à New Bedford aux États-Unis. Sa famille est Quakers. Le Quakerisme est un mouvement religieux protestant prêchant le pacifisme, mais aussi, et vous le savez, l'austérité. Ce dernier enseignement surtout, Hetty s'emploiera à l'appliquer tout au long de sa vie. Son père, Edward Robinson, est un homme d'affaires très prospère qui lui transmet des valeurs telles que le goût du travail et surtout l'importance de gagner de l'argent, beaucoup d'argent même. À l'âge de 6 ans, Hetty lit régulièrement les journaux financiers avec lui. De cette manière, j'ai appris à connaître ce qu'étaient les actions et les obligations, comment les marchés fluctuaient et le sens des mots « marché à la hausse »,« marché à la baisse » se rappellera-t-elle. Alors que les autres jeunes filles font de la broderie ou composent des bouquets, Hetty Green accompagne son père dans ses voyages d'affaires. Elle dira plus tard à propos de la finance, « À 15 ans, j'en savais plus que beaucoup d'hommes qui en vivent ». La mission que s'est fixée Edward Robinson est simple. Il veut transmettre à sa fille sa passion pour l'argent.
Un beau projet.
Une passion qui confine d'ailleurs à la pingrerie. Alors qu'Hetty Robinson est très jeune, son père lui donne ce drôle de conseil. « Ne donne rien à personne, pas même de la gentillesse ». Hetty Robinson grandit et sa passion pour la finance aussi. Alors qu'elle a une vingtaine d'années, son père lui offre une garde-robe élégante, susceptible d'attirer un fiancé aisé. Hetty n'hésite pas à vendre ses tenues flambant neuves pour acheter des actions en bourse. Ah, vous l'avez compris, elle a la spéculation dans le sang. En 1867, Hetty se marie avec Edward Henry Green, qui vient d'une riche famille du Vermont. Le couple déménage pour Londres où Edward Green devient directeur de banque. Hetty s'occupe de ses deux enfants, Edward Henry et Sylvia Anne, mais elle n'oublie pas les bons conseils financiers que son père lui a prodigués durant toute son enfance. Quand il meurt, son père lui lègue environ 6 millions de dollars qu'Hetty Green s'emploie évidemment à faire fructifier. L'un de ses plus gros coups, des investissements dans le dollar américain, qui lui rapporte un très beau pécule. Un an plus tard, Hetty Green hérite aussi d'une partie de la fortune de sa tante, l'une des personnalités les plus riches de la ville de New Bedford. Une partie seulement. Hetty Green ne s'y attendait pas, la quasi-totalité de l'héritage va à des œuvres de charité. Se sentant lésée, elle proteste vigoureusement et fait un procès. Pour rafler l'héritage, notre Gripsou n'hésite pas à produire un faux testament, mais elle perd quand même la partie. Après 5 ans de procédure. Si l'on combine l'héritage de son père et celui de sa tante, la fortune personnelle d'Hetty Green est considérable, presque 7 millions de dollars. Pourtant, à la maison, elle ne met pas la main à la poche. C'est son époux Edward qui règle toutes les dépenses. Mais Hetty Green fait tout de même attention à dépenser le moins possible. On dit qu'elle n'achète que des cookies émiettés car ils coûtent moins cher et retourne les emballages usés pour recevoir une consigne de 5 cents. Tout change en 1874. La famille Green rentre à New York où Hetty découvre que son époux, très dépensier, a fait dans son dos de mauvais investissements qui l'ont laissé sur la paille. Pour Hetty Green, c'est une véritable trahison et le mariage prend fin. Hetty Green doit désormais subvenir aux besoins de ses enfants. Elle pourrait se contenter de vivre de la fortune dont elle a hérité, mais ce serait mal la connaître. Bien vite, elle apparaît comme une redoutable financière, spéculant, achetant et revendant des actions dans les chemins de fer. Elle investit aussi dans l'immobilier et tout ceci lui rapporte gros. En même temps que la fortune d'Hetty Green augmente, la médisance aussi. Quand son fils se blesse au genou, sa décision de l'emmener à l'hôpital public est perçue comme une terrible preuve d'avarice, d'autant que le pauvre garçon doit être amputé. Au final, il est probable que même dans une clinique privée, l'enfant aurait été mal soigné, la médecine de l'époque n'étant pas encore tout à fait au point. La réalité, surtout Katie Green, dérange. Les femmes de la bonne société doivent se conduire modestement et gracieusement en public, mais Etty se moque des conventions. Elle ne gagne pas seulement de l'argent, elle se conduit aussi comme un homme. D'ailleurs, certains de ses amis la surnomment la « gentlewoman ». Elle n'avait peur de rien et n'était implacable avec ceux qui essayaient de profiter d'elle, dit l'un d'entre eux. Ainsi, un jour de 1887, elle flanque une frousse terrible à son adversaire dans les affaires, Collis Huntington. Collis Huntington est venu trouver Etty Green à son bureau pour la convaincre de lui céder les actions qu'elle possède d'une compagnie ferroviaire. La discussion se prolonge, le ton monte, et Collis Huntington commet alors l'erreur de menacer la famille d'Etty Green. Bien mal lui en prend. Etty Green sort un revolver et menace de lui loger une balle dans le cœur. Collis Huntington sort si précipitamment qu'il en oublie son chapeau. Décidément, quand on s'en prend à son argent, Etty Green a du répondant. Pour récupérer une dette de quelques milliers de dollars, elle est capable de traverser le pays seule, à une époque où peu de femmes osent voyager sans escorte. Et malheur à ceux qui essayent de la doubler, quand une église presbytérienne de Chicago refuse de rembourser un prêt de plusieurs milliers de dollars, Etty Green se montre inflexible et fait saisir les biens du pasteur. À côté de son extraordinaire habileté financière, le mode de vie d'Etty Green fascine les foules. Alors qu'elle est riche comme Crésus, sa frugalité interroge. Elle possède plusieurs immeubles, mais vit dans un petit appartement de Brooklyn. Et lorsqu'elle voyage, Etty Green séjourne uniquement dans des hôtels bon marché. Pire, elle contrôle la vie amoureuse de son fils Edward. Quand celui-ci entame une relation amoureuse avec une ancienne prostituée, Etty Green en a des sueurs froides. Elle refuse qu'une étrangère, sans doute une croqueuse de diamants, approche de la fortune familiale. Sous pression, Edward doit promettre à sa mère de ne jamais se marier. Le couple vit secrètement en concubinage pendant de longues années. Ils s'uniront officiellement après la mort d'Etty Green en 1916. La vieille dame a alors 81 ans et sa fortune avoisine les 200 millions de dollars, ce qui représente aujourd'hui la coquette somme de 2 milliards et demi. Dans sa nécrologie, le New York Times lui rend cet hommage. Elle a fait preuve d'assez de courage pour vivre comme elle le voulait, être aussi économe qu'il lui plaisait et observer les conventions du monde qui lui semblaient justes et utiles, ignorant toutes les autres calmement et froidement.
Europe 1, historiquement vôtre.